Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
C'est le retour d'Europe Avec après des congés estivaux bien mérités. Et quel plaisir de retrouver Nathanaël Bloch pour ce 131e épisode. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Marianne, ravi de vous retrouver.
Ravi de vous retrouver aussi. Nathanaël, en premier thème, on va bien sûr évoquer la colère des agriculteurs en France, mais pas que, puisqu'aujourd'hui la contestation s'étend en Europe et notamment en Belgique, Nathanaël, où des routes sont bloquées dans Bruxelles en marge d'un Conseil européen, ce qui sera justement notre deuxième thème. Nathanaël, dernières actualités au sujet du mécontentement, on le dit, et des agriculteurs. 91 personnes ont été interpellées après une intrusion dans l'enceinte du marché de Rungis. Le préfet de police de Paris parle de franchissement d'une ligne rouge. Et Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, le premier syndicat agricole de France, a lui appelé au calme et à la raison, alors que pourtant, il y a encore quelques jours, il assurait que les manifestations se dérouleraient aussi longtemps que nécessaire. Ça prouve bien qu'il y a une escalade de la violence, ou en tout cas une escalade dans la contestation. Alors Nathanaël, commençons par le commencement, tout simplement. Qu'est-ce qu'il se passe? Quelles sont les raisons? Quelle est la genèse de cette crise?
On peut dire, Marianne, qu'il y a trois principales raisons qui font que nos agriculteurs sont en colère et manifestent ces derniers jours. D'abord, la première raison, c'est que en fait, les agriculteurs français, mais également européens, et vous l'avez mentionné, font de plus en plus face à, j'allais dire, un enchevêtrement de politiques extrêmement complexes, compliquées à mettre en œuvre et compliquées à comprendre pour les agriculteurs eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Il y a toujours plus de normes, il y a toujours plus de régulations et il y a toujours moins de marge pour nos agriculteurs. Premier point. Deuxième point, et là, c'est pas simplement le cadre français, mais c'est le cadre européen. Il y a de plus en plus au niveau de l'Union européenne, mais de par aussi l'intégration politique et par le projet européen lui-même, des normes qui s'imposent aux agriculteurs, par exemple, français, mais qui n'ont pas forcément de sens pour eux, alors qu'il peut avoir un sens pour d'autres agriculteurs. Si on prend par exemple ce qu'on appelle des paquets législatifs, comme le Green Deal, il va y avoir à l'intérieur de ce paquet des lois qui vont s'imposer à tous les agriculteurs, mais qui ne vont pas forcément être adaptées à nos agriculteurs français. Et puis la troisième raison, Marianne, c'est vraiment des raisons, là je vous le dresse un peu de manière macroéconomique, mais pour qu'on comprenne, la troisième raison, Marianne, c'est qu'en fait, au même moment où nos agriculteurs font face à de plus en plus de normes et d'encadrement législatif qu'ils considèrent comme extrêmement contraignant, il y a des accords de libre-échange qui se négocient, qui sont en cours de négociation entre l'Union européenne et des pays extérieurs à l'Union européenne. Et donc, il y a toujours cette crainte de voir le marché européen inondé par des produits extérieurs qui ne répondent pas aux mêmes normes et qui seront donc moins chers et qui seront de fait une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Donc, c'est vraiment cette espèce d'imbroglio de plusieurs aspects qui font que les agriculteurs sont en colère et que ça dépasse encore une fois largement le cadre français pour s'étaler au cadre européen.
Donc justement, vous en avez parlé, il y a le cadre de l'Union européenne, il y a le cadre des accords de libre-échange avec l'international au-delà de l'Union européenne. On va y revenir, on va approfondir ces deux thématiques. Mais juste une dernière question dans le cadre très franco-français. Est-ce que ça change quelque chose le fait qu'on ait un nouveau gouvernement à Paris, notamment la nomination de Gabriel Attal au poste de nouveau Premier ministre?
Alors oui et non, Marianne, je suis désolé, c'est pas une réponse satisfaisante, mais ça change évidemment parce que c'est une nouvelle déclaration de politique générale que le Premier ministre a fait devant le Parlement cette semaine, donc avec évidemment une autre impulsion politique en ce qui concerne aussi l'agriculture. Mais c'est aussi une continuité, tout simplement parce que un des ministres en charge de ces questions-là, Marc Fesneau, était déjà présent dans le précédent gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc d'une certaine façon, c'est un peu, on prend les mêmes et on recommence.
Et du coup, l'Union européenne, alors, est-ce que la France trouve de l'aide à Bruxelles pour gérer cette crise?
En fait, il faut savoir, déjà, pour bien parler du cadre, les inquiétudes et les contestations des agriculteurs français sont partagées par beaucoup d'autres agriculteurs au niveau européen. On prend par exemple les agriculteurs allemands, les agriculteurs au niveau des Pays-Bas. On voit aussi, comme nos images de routes bloquées, de fumier déversé, des protestations dans ces pays-là. Ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, le mal venant principalement de l'Union européenne, c'est aussi à l'Union européenne de trouver ces solutions-là. Et c'est d'autant plus intéressant, Marianne, que l'agriculture, on le voit bien, hein, c'est de plus en plus de choses qui sont décidées au niveau de l'Union européenne, et on est dans cette année charnière de prochaines élections au niveau pour le Parlement européen, avec une menace de plus en plus importante de l'extrême droite. Et pourquoi je mentionne ça, Marianne, c'est parce que, en fait, derrière cette question de l'agriculture, c'est la question du protectionnisme. Et donc, c'est à l'Union européenne aussi de trouver des solutions dans un cadre qui est compliqué, parce qu'il ne peut pas y avoir de règles qui vont à l'encontre, là je parle au sein de l'Union européenne, qui vont à l'encontre des principes de libre circulation des biens et des personnes. Et donc, derrière la question de l'agriculture, il y a la question du droit du travail entre les différents pays de l'Union européenne, il y a la question de la rémunération, il y a la question du salaire minimum entre différents types d'Européens. Et à ça, vous ajoutez encore une fois la couche de pays extérieurs à l'Union européenne. Juste pour donner un petit exemple qui va parler à nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, il y a tout un débat, toute une discussion autour des notions d'appellation d'origine contrôlée. Ça peut paraître extrêmement anecdotique, mais en fait, le risque, c'est quoi, Marianne? Le risque, c'est de voir le marché européen inondé de vins pétillants australiens ou néo-zélandais avec l'appellation champagne, mais qui n'est pas du champagne, à des prix défiant toute concurrence, et donc de faire, encore une fois, concurrence déloyale par rapport aux viticulteurs français notamment. Donc, vous voyez, ces questions-là, elles vont bien au-delà de l'agriculture. Et puis, le deuxième élément que je voudrais aussi mentionner, et ça, c'est quelque chose qui est très important, Marianne, c'est qu'il faut aussi bien faire la différence qu'il n'y a pas une crise agricole et une crise des agriculteurs. On ne peut pas parler des agriculteurs comme d'une masse monolithique. Il y a évidemment des intérêts qui peuvent être même divergents entre des céréaliers à la tête de mastodontes industriels et des agriculteurs ou des viticulteurs en biodynamie dans certains territoires. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre, c'est que quand vous avez cité, et vous avez eu raison de le faire, hein, la FNSEA n'est pas représentative de toutes les revendications des agriculteurs. Et je crois que ça va être aussi une des premières choses pour le nouveau gouvernement Attal, c'est d'essayer de ne pas amalgamer tout cela, parce que ça ne va absolument pas éteindre cette crise des agriculteurs.
Vous avez parlé des élections européennes qui arrivent dans quelques mois. Bien sûr, on va approfondir ce sujet en deuxième partie d'Europa Voice. Mais vous m'avez donné une transition toute faite pour continuer dans cette première partie sur la crise agricole, la crise des agriculteurs. C'est les traités de libre-échange. Et vous avez parlé notamment de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Les agriculteurs français semblent dénoncer en masse, hein, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, pourtant très grand importateur de produits laitiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer ?
Il faut savoir que, au sein de l'Union européenne, nous ne sommes plus habitués depuis longtemps à ces notions d'accord entre pays, puisqu'il n'y a pas besoin d'accord de libre-échange entre pays au sein de l'Union européenne. Mais l'Union européenne, quand elle doit négocier des échanges de produits, de biens, de personnes, elle est confrontée à des barrières tarifaires qu'elle doit discuter pour chaque type de produit et chaque pays. Et donc, vous avez des ensembles de pays ou des pays avec lesquels l'Union européenne a déjà mis en place ces accords de libre-échange qui permettent, en fait, non pas d'avoir les mêmes conditions favorables comme on les a au sein de l'Union européenne, mais d'avoir des conditions quand même plus favorables que s'il n'y avait pas ces accords de libre-échange. Mais il y a plein d'autres ensembles du monde. Je pense au Mercosur, par exemple, parce que c'est évidemment dans le viseur en ce moment, notamment de notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, mais avec d'autres pays, et notamment c'est le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On en est au round, ce qu'on appelle un round de négociation, déjà à deux chiffres, hein, 13, 14 ou 15, je ne sais plus. Et donc, on en était presque à conclure ces accords de libre-échange, ou encore une fois, Marianne, et pour nos éditeurs d'SBS et d'Europa Voice, on discute chaque point. C'est-à-dire qu'on va discuter tel produit, les produits laitiers, on va discuter les fromages, on va discuter les vins, on va discuter tout un tas de choses. On va faire des concessions, etc. C'est-à-dire qu'on va faire une politique favorable sur tel produit en échange d'une politique plus favorable sur tel autre produit. Bon, et là, il se trouve que justement, cet accord de libre-échange qui est en cours de négociation avec la Nouvelle-Zélande, on en est un peu à un point de blocage, de menace, et on n'est pas sûr que ces accords-là, quand je dis ces accords-là, je parle de Nouvelle-Zélande et d'Australie, vont nécessairement aboutir aussitôt qu'ils ne l'étaient prévus, justement parce que, encore une fois, ce serait peut-être la goutte d'eau qui ferait déborder le vase de nos agriculteurs. Vous imaginez bien qu'à un moment où ils manifestent parce qu'ils trouvent déjà qu'il y a une concurrence déloyale des hypermarchés, etc., que les marges sont trop grandes pour les grandes surfaces et pas assez pour eux, vous imaginez bien qu'ils verraient d'un très mauvais œil la conclusion de ces accords de libre-échange. Et je voulais juste aussi rajouter, Marianne, parce que ça me semblait important, que les exécutifs européens ont quand même déjà un petit peu lâché du lest, notamment sur certaines dispositions de la politique agricole commune, parce qu'encore une fois, c'est une régulation au niveau de l'Union européenne. Mais voilà, ce n'est pas encore suffisant. Et on va voir en fait ce que vont donner notamment les discussions au sommet européen qui a lieu là, qui va débuter là dans les minutes où on se parle.
Transition parfaite vers notre deuxième thème. Il y a en effet un sommet européen qui se tient ce jeudi 1er février. Un conseil des 27 en cours à Bruxelles. On marque une très courte pause, Nathanaël. On y revient dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Europa Voice numéro 131, deuxième partie. Nathanaël, un conseil européen consacré au soutien de l'Union à l'Ukraine se tient ce jeudi 1er février et notamment la pression qui s'accroît sur la Hongrie qui bloque depuis décembre une aide de 50 milliards d'euros à destination de Kiev.
Oui Marianne, c'est finalement bis repetita ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que pour certaines décisions qui requièrent soit une majorité qualifiée, soit en l'occurrence l'unanimité, on a des dissensions au sein des pays de l'Union européenne et ça vient quand même souvent des mêmes, et en l'occurrence Viktor Orban. Ce qui est intéressant juste sur ce blocage-là d'une certaine façon, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il est un peu plus isolé que d'habitude, Viktor Orban. Alors est-ce que c'est un sursaut des démocraties européennes aussi en vue des élections de juin prochain, un alignement sur des positions communes par rapport à l'Ukraine et au fait que si même l'Union européenne n'est pas derrière, c'est un peu aussi la fin des possibilités pour l'Ukraine de s'en sortir. C'est encore compliqué de le dire parce qu'encore une fois, on enregistre au moment où le Conseil européen se tient. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que peut-être pour une fois, par rapport aux derniers Europa Voice, on parlait de ces conseils européens, il semble qu'Orban soit un petit peu plus isolé. Est-ce que c'est la fin de son règne? Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, Marianne.
De toute façon, ce sujet ouvre beaucoup de conversations. Il y a énormément à dire. Il faut commencer par dire que l'Ukraine, c'est pas le seul point de divergence entre la Hongrie et l'Union européenne, vous venez de l'évoquer. Viktor Orban, c'est la bête noire, le premier ministre hongrois seul contre les 26.
C'est la bête noire d'une certaine façon parce que c'était aussi un des premiers à ouvrir le bal de ces dirigeants d'extrême droite affirmés au sein de l'Union européenne. Alors depuis, malheureusement, il a fait des petits jusqu'en Europe de l'Ouest, hein, en Europe occidentale. Je pense notamment à Giorgia Meloni. Je pense au retour des premiers députés d'extrême droite en Allemagne. On a évidemment en France l'extrême droite, Le Pen père et Le Pen fille au second tour des élections présidentielles ces 20 dernières années. Mais effectivement, Orban, c'était aussi le premier leader qui a montré que la bête immonde pouvait renaître de ses cendres, même au sein de l'Union européenne. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec Viktor Orban, s'est posé aussi, pour une des premières fois en Europe, la question de l'exclusion d'un pays, ou de la sortie d'un pays, parce qu'il n'y avait plus d'alignement entre ce pays et les valeurs que les pays devaient avoir pour appartenir à l'Union européenne. Respect du droit des minorités, liberté de la presse, plein d'autres choses. C'est ce qu'on demande aux pays qui sont candidats, l'Ukraine, mais je pense aussi à certains pays des Balkans. On leur demande, avant même de pouvoir faire acte de candidature, d'aligner certaines valeurs sur celles de l'Union européenne. Encore une fois, je prends l'exemple de l'état de droit, l'exemple du respect des minorités, l'exemple de la liberté de religion, etc. Et donc, on se retrouvait à un moment où on toquait à la porte de l'Europe, mais un des membres n'était plus sur les rails que ces pays devaient avoir. Et donc ça, Orban, d'une certaine façon, il le portait. Il était l'étendard de cette contestation au sein de l'Europe. Donc d'une certaine façon, il a longtemps quand même été seul contre les 26. Et puis après, encore une fois, comme dit il y a quelques minutes, il a fait malheureusement des petits, des émules. Et puis maintenant, on a une Europe, on citait l'Italie, l'Allemagne, on peut citer aussi les Pays-Bas, Marianne. On peut citer la Pologne aussi à certains égards. Et donc c'est ça aussi tout ce qui représentait Orban, tout ce qui représente Orban pour l'Union européenne.
Quelles peuvent être les conséquences sur les élections européennes à venir dans 5 mois?
Les conséquences, Marianne, elles sont assez simples. Hein. C'est une montée encore de ces extrêmes droites, non pas au sein des exécutifs européens seulement, mais au sein des délégations parlementaires au niveau du Parlement européen, où l'extrême droite a encore un poids, j'allais dire, plus faible qu'il ne l'a au sein des exécutifs européens, c'est-à-dire que le législatif européen n'a pas encore rattrapé les exécutifs nationaux qui ont de plus en plus à leur tête des personnages d'extrême droite. Et puis le risque aussi, c'est d'utiliser que ces élections européennes soient utilisées comme cristallisateurs de tous les mécontentements qu'on trouve actuellement au sein de l'Union européenne. Si vous voulez, une certaine gilet jaunisation de ces élections européennes. Un des gros risques, c'est les agriculteurs. On sait que l'agriculture, on en a parlé dans cet épisode d'Europa Voice, l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles et qui sont contraignants pour les agriculteurs dans les différents pays états membres de l'Union européenne. Et donc, c'est aussi, d'une certaine façon, de dire stop à l'Europe. Regardons les sondages actuellement en France. Il y a 10 points d'écart entre l'extrême droite et Renaissance. C'est ça le risque, vraiment. C'est de voir un Parlement avec beaucoup plus de députés d'extrême droite européens. La conséquence aussi, c'est que dans un système politique où beaucoup de décisions, là je parle même pour au niveau des États membres, mais requièrent l'unanimité, c'est un système de blocage d'une certaine façon. C'est de voir qu'on ne va plus être capable, on le voit bien là actuellement, on en parle pour l'Ukraine et cette aide de 50 milliards. Le risque avec encore plus d'extrême droite au sein des instances européennes, c'est de voir encore plus ces minorités de blocage qui font que ça va être compliqué d'avancer.
Mais dites-moi si je me trompe, mais il y a quand même une sorte de schizophrénie parce qu'on est en plein débat sur l'élargissement de l'Union européenne alors qu'au final on n'arrive même pas à renforcer l'Union européenne au sein des 27 qui sont déjà préexistants.
C'est peut-être la question, j'allais dire, politique, administrative la plus importante de ces 20 dernières années, Marianne, au niveau de l'Union européenne. C'est intégration, approfondissement versus élargissement. C'est où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a assez approfondi? Est-ce qu'on a assez intégré le projet politique européen au sein de l'ensemble des 28 moins 1 des 27 de l'Union européenne avant de pouvoir se permettre encore d'élargir un peu plus? Pour donner un petit peu d'historique, on est quand même passé assez vite d'une Europe des 15, disons-le, à une Europe des 27. Et le problème aussi, Marianne, c'est qu'au début, évidemment, on intégrait des pays qui étaient plus ou moins dans le même décorum, d'une certaine façon, des pays occidentaux, des pays d'Europe de l'Ouest. Et puis, on a ouvert, et c'est très bien, puisque ça a permis aussi d'accélérer la transition démocratique de certains pays. Je pense à la Pologne, par exemple. Il est évident que la Pologne ne serait pas où elle est aujourd'hui, Marianne, si elle était restée en dehors de l'Union européenne. Donc c'est très bien d'avoir intégré tous ces pays de l'ex-bloc soviétique. Et on le voit, c'est un succès puisque beaucoup de pays frappent à la porte. La question, c'est est-ce qu'on doit faire pause et mieux intégrer, plus approfondir les politiques communes qui existent déjà au sein de l'Union européenne ou est-ce qu'on doit, en fait, en parallèle, continuer cet élargissement, sachant qu'évidemment, effectivement, plus on est de fous, plus on rit, mais aussi plus on est de fous et plus les décisions sont compliquées à prendre parce qu'il faut convaincre plus de monde, on a plus de pays autour de la table, on a plus d'intérêts divergents. J'allais dire, non pas que je me contredise, mais pour aussi défendre l'autre position, il est vrai aussi que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a montré la nécessité de l'Europe et a montré que tous ces pays-là se tournaient vers l'Europe parce qu'en fait, il n'y avait plus tellement de place pour une neutralité. C'était soit vous êtes englobé dans... sous une influence russe, soit vous rapprochez de l'Union européenne. C'est pour ça aussi, Marianne, que, et je pense que c'est important pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, c'est pas aussi simple que Union européenne ou pas Union européenne. L'Union européenne, par exemple, a des coopérations politiques bilatérales entre l'ensemble européen et, par exemple, des pays, en attendant d'intégrer ou pas, d'ailleurs, ces pays-là. Prendre un exemple qui parle à tout le monde, la relation entre l'Union européenne et la Suisse n'est pas la même que la relation entre l'Union européenne et un pays lambda du reste du monde. Il y a quand même des accords de coopération très spécifiques sur certains aspects. Donc est-ce que c'est peut-être ça, cette entre-deux, cette solution, en attendant justement de pouvoir pleinement réouvrir le carnet d'adhésion à l'Union européenne? Et puis dernier point, pour l'Ukraine, on avait quand même beaucoup vu finalement quelque chose d'assez opportunistique. C'est-à-dire que l'Union européenne avait aussi ouvert ses portes et avait parlé d'un fast track, d'une procédure accélérée pour accéder à l'Union européenne, parce qu'il y avait ce contexte de guerre, parce qu'il y avait aussi d'une certaine façon un romantisme européen, à dire on vous accueille, on a raté un petit peu on a raté un peu Maïdan, on a raté 2014, on n'a pas anticipé, etc. C'est plus compliqué. Même s'il y a un fast track, il y a des règles, il y a une unanimité à requérir au sein de l'Union européenne. Et donc voilà, on se frotte aussi à la réalité de ce que c'est aujourd'hui ce bloc européen et cette nécessité de bien balancer entre, encore une fois, approfondissement et élargissement.
Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci, Marianne.
Mesdames et messieurs, c'était Europa Voice numéro 131. Merci beaucoup de l'avoir écouté.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.